Il y a quelqu'un qui vient de nous texter l'autre jour. Les enfants m'ont demandé c'était quoi l'intimidation. On a syntonisé Boulevard l'après-midi ensemble.
C'est ça. Je suis victime là-dedans.
Il est 5h-10. Tout ça est fait dans l'amour, en passant.
Mais oui.
Ouais, ouais. Sans ça, Véro serait parti depuis de nombreuses années.
Je me mets mal. Je vais aller en thérapie.
Au fil de toutes ces années-là, malgré...
Quand tu prends congé, on va m'apprendre à me tenir debout et je vais quitter.
Oui, puis au fil des années, elle aurait quitté et malgré ses courtes pattes, elle aurait réussi à se rendre plus loin. Donc,
c'est
voilà.
Ce qu'on nous dit.
Oui, on referme la parenthèse. Hey, avant de se rendre au Palais de justice de Québec, on parlait tantôt de la SAQ qui a donné un rabais mystère et surprise. Même eux autres ont été surpris en fin de semaine, des rabais de 30% sur les commandes Internet. Puis ça nous a amené à parler des whisky, des ouais. Scotch et ainsi de suite.
Je t'ai jugé parce que ton... toi, c'est un scotch ou un whisky?
C'est un scotch.
Es-tu sûr de ce que tu dis là?
Non.
OK.
Les auditeurs m'ont dit que c'est un scotch. Quand je te dis que je connais pas ça, là, c'est ça que ça veut dire. C'est un scotch.
C'est un whisky.
C'est un whisky scotch.
Tout va bien.
Oui. Oui, 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 oui.
Pas mêlant pantoute.
Fait que je vous disais que moi, mon préféré, c'était le Lagavulin 16 ans. Oui. Puis il est rendu à un prix exorbitant, un prix auquel je ne l'ai jamais payé. Tu as fait la vérification, oui. Puis effectivement, ça a monté en fou. Là.
C'est un article qui remonte à février de cette année, vraiment sur un site spécialisé dans tout ce qui est alcool, maltais, ce genre d'affaires-là. Et on parle d'une tendance mondiale, mais particulièrement marquée au Québec. À titre d'exemple, en 2022, le Lagavulin 16 ans et le Highland Park 18 ans se vendaient respectivement. Effectivement, 123,50 $ et 200 $. Ça veut dire que 123,50 $, c'est ce que tu payais. Alors que le prix affiché est désormais de 174,75 $ et de 395,25 $. C'est une augmentation d'environ 42% pour le Lagavulin et 95% hey, pour le Highland Park.
C'est énorme, là!
Ben c'est pas... tu sais, du fort, tu peux faire un an et demi, deux ans, trois ans, quatre ans avec la même bouteille. Là. Moi, je suis convaincu que j'ai jamais payé 120 $ pour un Lagavulin 16 ans.
Ça veut dire que ta bouteille date d'avant 2022.
Je suis sûr que j'ai jamais payé plus que 105 $ pour une bouteille de même. Mais tu sais, tu prends des petits fonds une fois de temps en temps quand il y a un événement ou quelque chose. En tout cas, moi, je suis ce buveur de fort là. Je prends jamais des shooters, ça m'écœure. Puis je déguste le
non,
fond d'un verre.
Non, pas ça à la maison.
Si j'en ai, c'est pas le mien. Je te le confirme.
Commence jeune, les enfants.
Ouais, c'est ça, c'est à mes deux gars. 16h52, fait quoi? Il y en a des hausses de prix à la SAQ. Hey, on va s'en aller du côté du Palais de justice de Québec. Il y a quand même beaucoup d'actualités, puis il y a des trucs intéressants qui sont ressortis en marge d'un procès cet après-midi dans les dernières heures. Judith Demeul est journaliste judiciaire au Soleil. Bonjour, Judith.
Allô.
Est-ce que Audrey mérite son congé ou pas, d'après votre toi, au niveau légal de la chose?
J'ai analysé un petit peu. Je trouve que tes arguments sont basés sur l'émotion. Puis tu as beaucoup aussi de préjugés dans ton discours. Puis ça, d'habitude, on retire ça de la décision.
On peut l'aille.
Ouais. C'est parce que normalement, t'es journaliste. J'ai trouvé ça teinté, là,
oui,
ton analyse.
Elle est où l'impartialité là-dedans?
Là, je suis la même génération qu'Audrey, donc...
Ah, voilà, voilà. C'est donc dur à trouver une coloriste.
Bon, ça y est, fond de l'âgisme.
Hey, un procès intéressant, celui de Diana Torres Acosta, qui a débuté aujourd'hui. Puis, ce qui retient l'attention, tu vas nous raconter qu'est-ce qui arrive, là, mais on ramène une présentation... de type Mr. Big.
Ouais.
Puis il me semble qu'à chaque fois qu'on a entendu parler de ça, dans l'actualité, ça n'a pas rapporté cette stratégie policière-là.
Exact, mais là, on n'appelle plus ça comme ça. Donc déjà
c'est
là,
un autre nom?
Ouais, on appelle ça...
O. Henry.
Merci.
Désolé.
Oh mon Dieu, ouais.
Désolé, je m'excuse, Judith.
C'est un sujet sérieux, là, quand
ouais,
même.
Ouais, oui, habituellement, j'en fais pas devant la visite. Là. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Ça doit être les médicaments. Je suis vraiment désolé.
Donc maintenant, on appelle ça une technique d'infiltration au crime majeur. Donc, c'est TICM.
Okay.
Le nom est moins le fun un peu, mais ouais, on a changé le nom pour
ça,
un peu...
Ça résonne moins aussi.
Pour
là.
Un peu changer la mentalité, justement. Puis bref, on appelle plus ça comme ça. C'était attendu, ce procès-là, de Diana Torres Acosta, parce que ça fait un petit bout. La fillette qui est décédée dans ce dossier-là, elle est décédée en juillet 2019.
Crime.
Puis Torres Acosta a été accusée en décembre 2021.
Fait que c'est pour ça qu'il y a eu un si long délai. Il nous manquait des éléments pour être capable de l'accuser.
Fait que nous, on savait qu'il y avait un
pas un Mr. Big, un TICM.
Mais c'est la même chose. C'est la même chose. On a juste changé le nom.
Ouais. On savait qu'il y avait de l'infiltration là-dedans, puis c'est pour ça que ça avait pris beaucoup de temps. Puis là, on peut maintenant avoir un peu les détails. Donc, ce qui est arrivé, je vous ramène en juillet 2019. Il y a une petite de 13 mois. Elle est déposée à la garderie le matin, le 17 juillet, puis sa maman vient la chercher vers 15 heures. On lui explique qu'elle a vomi sur l'heure du dîner, puis la sieste a été difficile parce qu'elle pleurait beaucoup. Puis la maman trouve que sa petite, elle est un peu amorphe, le teint pâle, elle file pas. Fait que direction d'urgence, on n'y est pas, elle a 13 mois. Puis avec les symptômes là-bas décrits, puis le fait qu'elle était devenue plus calme rendue à l'hôpital, on a dit que c'était probablement une gastro-entérite. On a donné des médicaments, puis on a retourné à la maison, puis si jamais ça s'aggrave de revenir. Pendant la soirée, le bébé aurait convulsé puis perdu connaissance. Donc, direction une fois de plus l'hôpital, on revient, puis là, on fait de plus grands examens, transfert au CHU, puis on réalise que finalement, les dommages sont dramatiques. Les médecins ont comparé ça, l'agent qui a témoigné aujourd'hui pour mettre la table un peu dans ce procès-là, il disait que le bébé, on dirait qu'il était tombé de 10 étages. Ouf. Mais pourtant... C'était pas ça qui était arrivé.
Mm-hmm. Donc, mais c'était interne, quoi, parce que physiquement, ouais, ça n'a pas été...
On n'a pas eu tous les détails. On n'est pas rendu là dans le procès. Ça a été un petit peu le topo qu'on a eu ce matin pour entamer le procès. Fait que de là, on a commencé l'enquête. On a interrogé les gens de la garderie, qui finalement est une garderie légale et qui a fermé dans les jours suivant la mort de la petite parce qu'elle n'était pas approuvée par le ministère de la Famille. Puis... il n'y avait pas assez d'éléments de preuve pour déposer des accusations. Puis, en fait, les policiers n'étaient pas capables de savoir ce qui s'était passé le 17 juillet. Par contre, ce qui était certain, c'est qu'il y avait des incohérences dans les témoignages. Donc, je pense que c'est ça, avec toutes les autorisations, puis l'enquête qui s'est déroulée, ils ont eu l'autorisation de déclencher une infiltration au mois de juillet 2020, ce qui nous amène quelques mois plus tard. Puis l'infiltration a duré environ 2 mois, février-mars. Puis, il y a eu une analyse, puis les accusations ont été déposées.
Dans ce genre d'infiltration-là, Judith, ce qu'on va chercher, c'est une forme d'aveu. C'est
des aveux. Ouais. Puis, souvent, ce qui est mêlant, justement, quand on parle de Mr. Big, comme tu l'as dit tantôt, un Mr. Big, ça amène les accusés, les sujets visés, en fait, les suspects, à faire des activités criminelles, puis s'enrôler là-dedans, puis être plus capable de devoir avouer ce que tu as fait comme crime pour faire d'autres crimes. Ouais. Bref, ça tourne autour de la criminalité. Mais dans ce contexte-là, c'était pas ça du tout. Là. L'infiltration, c'était une entreprise qui cherchait des employés pour faire des jobs. Puis l'entreprise était les policiers qui essayaient d'enrôler la gardienne et son mari dans des travaux pour éventuellement avoir leur confiance et éventuellement obtenir des avis.
Un genre de parcours d'embauche, dans le fond.
Oui.
Pourquoi dans ce genre de filature-là, ça a eu mauvaise presse? On se souvenait du dossier d'Alain Perrault. Pourquoi cette preuve-là n'avait pas tenu en cours?
Bien, en fait, je pourrais pas t'en parler précisément, là, j'étais pas là, mais c'est une technique très complexe, puis ça doit être fait dans un cadre très précis.
Il y a des règles, puis à partir du moment où tu as contourné une règle, ben un avocat peut dire « Oh, attends
un
peu,
instant.
On reçoit pas les aveux, puis on peut pas les recevoir en cours parce que ça a pas été fait comme il se
exact.
Doit. »
Exact. Des fois, on tord le bras aux gens pour avoir les aveux, puis ça, c'est considéré pas vraiment legit, en termes faciles. Donc, c'est pour ça que, d'habitude, vu que c'est tout teinté de criminalité, les Mr. Big, c'est dangereux. Mais celui-là, la technique d'infiltration qu'on nous a présentée ce matin, c'est
gagner la confiance.
Ouais,
simplement.
C'est ça. On n'est pas dans des grosses affaires de tu viens faire une job pour nous, puis tu vas voler ci ou ça. C'est vraiment, veux-tu une job? On jase, puis...
Il n'y a personne qui s'est fait passer pour un boss de la mafia,
non,
mettons.
Non, exact.
Ouais, ouais.
Puis là, fait que là, on a eu le début de ça. On n'a pas le reste de l'infiltration parce que les agents qui ont participé à ça vont témoigner au cours de la scène. Puis c'est vraiment intéressant parce que l'identité des agents d'infiltration est protégée exposant 1000. Donc, ils ont pris la plus grosse salle du palais de justice, ils ont mis des paravents, puis nous, on n'a pas le droit de voir les témoins. En fait, ils les font entrer par une porte différente, il y a des gros paravents, fait qu'on les entend, mais on les voit jamais. Okay. On n'a jamais leur nom, on n'est pas, tu sais, quand ils sont assermentés, d'habitude, te disent leur nom, leur âge. Là, on...
là c'est camouflé.
Tout est camouflé. Fait que c'est un peu bizarre parce qu'on est dans la salle d'audience, mais on voit rien, en fait, parce qu'à cause qu'on voit pas le témoin, on voit pas le juge ni les avocats. Fait que c'est spécial.
Vous entendez une cause.
On entend. Ouais. Littéralement, on n'a rien vu autre que les paravents.
Quand on décide de lancer une enquête comme celle-là, c'est qu'on n'a pas la preuve scientifique de ce qu'on veut essayer de sous-entendre.
On n'a pas de
preuve. Avec l'autopsie et tout ça,
ouais,
il y avait pas moyen.
On sait qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé avec l'état des blessures de l'enfant. Puis, c'est aussi, ça a été dit, au moment d'entamer l'infiltration, les parents n'étaient pas exclus non plus, ils étaient encore des suspects.
Ouais.
Ça s'enlignait davantage vers la gardienne, mais il fallait aussi écarter carrément les parents, là. Donc, c'est vraiment pour des situations graves. Si on fait ça pour un homicide, une disparition, parfois des cas d'agression sexuelle, mais il faut que ce soit...
Est-ce qu'on sait si elle a avoué en détail qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Parce que j'imagine que t'es le parent de cet enfant-là. Tu veux le savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui. Parce qu'on a essayé de te le cacher, en plus.
Puis on est loin dans le temps, là, on est rendu en 2024.
Ben oui.
Puis ça, en plus, c'est de savoir... Là, on a commencé le procès techniquement, mais après la preuve en technique d'infiltration, la juge va devoir prendre un moment, analyser tout ça, et elle va revenir pour nous dire si, oui, elle accepte les aveux en preuve ou non.
Ça pourrait être non recevable.
Ça pourrait être
si,
non recevable.
Si, mettons, elle trouve qu'on a tiré un peu par les cheveux la manière de gagner la confiance de la personne ou à tout le moins de lui faire... dire des choses, ben, elle pourrait très bien dire,
fait,
ben,
ouais,
je suis désolée, mais ça passera pas.
C'est une analyse vraiment technique. Ouais. Ça, c'est la première étape. Puis après, on va savoir si on poursuit... Mais en fait, ça décide le reste du procès, là, à savoir si ces aveux-là sont en preuve ou non.
En fait, dans ma tête, ça peut pas aller à l'eau. Là. Il y a un bébé de 13 mois qui est mort.
Ben c'est choquant. Et dans le cas d'Alain Perrault, c'était ça l'histoire. C'est qu'il avait fait des aveux, mais les aveux, ils ont été refusés en cours parce que, de la façon qu'on avait monté l'enquête, à un moment ou à un autre, on était allé trop loin ou on n'avait pas suivi les règles.
Puis si tu n'as pas d'aveux dans ces dossiers-là, tu n'as pas de dossier.
Ouais.
Parce que les preuves, après, sont pas assez pour t'accuser.
Les enquêteurs qui ont été en charge de monter tout ce scénario-là, est-ce qu'eux autres vont être contre-interrogés puis interrogés avant que le juge prenne sa décision?
Oui, hein? La défense peut contre-interroger tous les agents.
Ça va durer combien de temps? La semaine, j'imagine, présenter tout ça?
Oui.
Hey, ça va être à suivre parce que c'est une preuve qui... parce qu'on l'a eu ici à Québec, ça a frappé notre imaginaire de façon négative. On pensait même à un moment donné que les policiers n'allaient plus utiliser ces techniques-là.
Oui, puis c'est intéressant parce que ça lève le voile sur une toute autre technique d'enquête qu'on fait que nous, on voit pas. Là, puis donc, ce sera intéressant.
À suivre, le procès de Diana Torres Acosta qui a débuté aujourd'hui au Palais de justice. Le crime organisé inquiète énormément autour de nous autres. Évidemment, il y a eu des séries d'arrestations. Il y a énormément de violence.
Les comparutions qui ont d'ailleurs débuté pour plusieurs.
Ça va tranquille. Moi, je me souviens que lors de la première guerre des motards, il y avait beaucoup de choses qui avaient avorté en raison des délais. Est-ce qu'on a appris de ça, Judith, au niveau judiciaire?
Oui, on a appris en termes de délais, puis on a appris aussi en termes de preuves, de dossiers complets, de ne pas poser des accusations trop vite, d'être certain en les déposant. Oui, ça c'est certain, parce qu'on voit le travail qui est fait en amont des arrestations, puis il faut que ça soit solide, là. Pas droit à l'erreur.
Il y a eu des arrestations. La semaine passée, un autre coup de barre?
Il y a eu un autre coup de barre. Puis si vous vous rappelez bien, le premier coup de barre là, qui a fait les manchettes énormément, c'était au mois de février. Mm-hmm. Puis, au mois de février, c'était après la torture de Saint-Malachie. Là, ça s'appelait comme ça. Là, c'était 3 jours. Ça avait dégénéré entre les Hells Angels et le groupe Blood Family Mafia. Puis ça avait vraiment marqué l'imaginaire. Puis ça inquiète, parce que quand on parle d'oreilles coupées, on parle de pieds brûlés, d'écrire rat dans le front de quelqu'un, ça fesse beaucoup. Fait que pour aussi essayer de calmer le jeu puis envoyer un message de comme c'est assez, vous avez peut-être dépassé les limites à cet endroit-là, là, on fait un grand coup de barre puis on arrête ceux qu'on a déjà dans notre mire.
Des deux côtés, hein, autant du côté des Hells que du...
Et de tout autre groupe criminalisé qui peut être impliqué là-dedans. Puis ça avait calmé le jeu, nous a-t-on dit. Là, ça avait calmé un petit peu les ardeurs de ces groupes-là. Puis ça fait qu'il faut que tu te restructures parce qu'il y a plein de monde qui sont en dedans maintenant. Donc
ça crée un vide.
Exact. Puis là, cette fois-ci, ben, il y a le corps d'un ado de 14 ans qui a été retrouvé au repère des Hells en Beauce.
Ouais.
Ça, c'est un autre coup qui fait comme « wow ».
On pensait avoir la situation en partie sous contrôle, ben, puis c'est pas le cas.
Ça frappe plus l'imaginaire, puis là, toutes les informations circulent. Donc ça, c'est un autre coup de barre qu'on vient dire, OK, on est là, oui, c'est grave ce qui se passe, oui, il y a beaucoup de violence, mais sachez qu'on garde un œil sur tout ce qui se passe. Donc il y a eu une autre vague, principalement, en fait, seulement autour de ça, autour du trafic d'armes.
Qui fournit tout le monde, de ce qu'on a pu comprendre?
Qui fournit pas mal de monde.
Il y a 30 ans, la guerre des motards, que je me rappelle, il me semble qu'il y avait deux gangs, là, avec leur club école affilié, évidemment, mais il y avait deux gangs. Là, ça semble pas mal plus complexe.
Bien, puis ce qui est intéressant là-dedans, puis ce qu'on a cru comprendre, c'est que Blood Family Mafia reçoit toute l'attention présentement, mais ce ne sont pas les seuls contre les Hells Angels, évidemment, existent encore. Puis nous, on a commencé à voir plus ce conflit-là, puis qu'il soit dans les médias, il y a un petit peu plus d'un an. Mais ça dure depuis plus longtemps que ça. Mm-hmm. Le problème des armes est un fléau que la police crie haut et fort chaque année depuis plusieurs années déjà. Et c'est que les actions commencent à être plus intenses, la violence un petit peu plus importante. Donc là, ça attire plus l'attention.
Bien, c'est sûr et certain que quand on nous raconte que des gangs arment des enfants de 14 ans avec des AK-47, ça frappe l'imaginaire de tout le monde, là.
Fait que ça fait plus longtemps que ça dure et il y a plus qu'un gang qui est impliqué là-dedans.
Puis là,
tout
ça part de Montréal.
C'est ça, tout ça part de Montréal. Puis, aux experts auxquels on a parlé, puis aux policiers... Il y en a plein de groupes que ça arrange, que ce soit Blood Family Mafia qui ramasse tous les projecteurs, là, parce que pendant ce temps-là, eux autres passent sous le radar et continuent le travail. C'est centré sur la drogue, les redevances, puisqu'ils doivent en vendre sur le territoire. On ne parle pas de contrôle comme on parlait il y a 30 ans.
Mm-hmm. Est-ce que c'est le bon narratif de dire, bon, les Hells Angels avaient la mainmise sur la distribution, la vente de drogue à grandeur de la province? Ils vieillissent, pas de relève, sont allés en prison, ça ne leur tente pas de retourner. C'est des semi-retraités, il faut comprendre. Là. Et là, tu vois des groupes qui sont plus jeunes, qui sont plus agressifs, qui sont plus violents, qui sont peut-être moins organisés aussi et plus chaotiques. Mais là, t'en as à Montréal, t'en as au Saguenay, t'en as au Québec.
Ils agissent pas comme on agissait dans le temps.
C'est ça. Puis c'est-tu juste de dire que ces groupes-là voient une opportunité de dire aux Hells Angels, « Hey, les redevances, on les paye plus. » Puis nous autres, on prend le contrôle de Montréal. Nous autres, on prend le contrôle de Québec.
Carrément.
Ouais.
Puis, il y a un mot à l'interne qui a été rendu public, qui a été partagé aux agents de la police de Québec, entre autres, qui disait qu'il y avait une offre qui avait été mise sur la table, des gangs de rue auprès des Hells Angels, pour avoir un partage, pour avoir un contrôle sur certains territoires. On ne voulait pas prendre le monopole là, comme ils avaient, puis les Hells ont refusé. Fait qu'il y a peut-être aussi une affaire d'orgueil là-dedans, qui ne veulent pas lâcher ce qu'ils ont acquis il y a 30 ans.
Quand t'épingles une quinzaine de personnes, comme c'est arrivé la semaine passée, est-ce qu'on y va de façon aléatoire ou on s'organise? Parce que là, il y a beaucoup de gangs impliqués. À chaque fois que t'arrêtes du monde, tu joues sur ce pH-là et cet équilibre-là dans une certaine mesure. C'est pas évident, là.
Puis quand ils arrêtent ces gens-là, surtout dans des opérations comme ça, ça fait longtemps qu'ils les surveillent. Mm-hmm. C'est des gens connus. Ils frappent pas au hasard. Comme c'était le cas en février dernier... Ils avaient vu un petit peu comment ça fonctionnait depuis plusieurs mois et savaient que certains étaient impliqués dans d'autres, mais bon, laisser aller ça pour recueillir plus de preuves, pour avoir les plus gros poissons, c'est toutes des techniques d'enquête. Puis à ce moment-là, clairement, on l'a vu, ils savaient où se trouvaient tous les lieux de perquisition pour aller chercher ce qu'ils voulaient chercher. Fait que c'est pas surprise, là, ça dégénère, il faut faire quelque chose, là, c'est prévu. Là.
Est-ce qu'il y a une voie express de prévu au palais de justice pour les crimes organisés, ces accusations-là, pour éviter, mettons, les dérapages du passé? Ça n'existe pas, hein?
C'est aussi complexe parce que ces gens-là sont des co-accusés, puis les co-accusés doivent se suivre.
Ouais.
Tu dois trouver des dates qui plaisent à tout le monde.
Cauchemar. Ouais.
Puis dans des cas comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de preuves à analyser qui sont sur des disques durs et qui peut être parfois archaïque. Là, on l'a entendu souvent. Pas capable d'ouvrir le disque dur en prison pour montrer à mon client, demande plus de temps pour analyser la preuve. Tout ça fait ralentir. Est-ce que là, on va mettre plus de pression pour justement que ça se règle plus vite? Peut-être. Ça va dépendre de ce que la magistrature...
Puis, d'un dernier mot, en plus de ça, on s'est rendu compte que certains accusés revenaient devant le palais de justice pour d'autres gestes qui ont été commis en plus de ça. Fait que moi, j'imagine juste le bureau là, avec plein de ficelles rouges partout puis que tu t'entrecoupes plein d'affaires. Ouais. On est franchement pas sorti du bois de ce côté-là.
Non.
Ça va être une belle année.
Entre gros guillemets. Judith Demel, merci beaucoup.
Merci à vous.
Judith, que vous pouvez lire évidemment sur le site du Soleil. Elle couvre les activités du Palais de justice. Puis on a fait le survol avec elle, oui, du procès de Diana Torres-Acosta, mais de la situation dans tout ce qui nous inquiète dans la région de Québec présentement. Courte pause, 5h10. On revient, vous êtes à Boulevard. Gravel. Dans le retour.